J'ai un très bon message à partager et je me réjouissais hier à l'idée de le partager. Je disais à ma femme, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire tenir tout ça en un seul culte parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. Pour tout vous dire, je me faisais la réflexion hier soir. C'est sans doute pour moi l'un des messages les plus importants que j'ai eu l'occasion d'apporter, si ce n'est le message le plus important. Parce que c'est un message... Qui a complètement changé ma vie. J'ai expérimenté ce que je vais vous partager ce matin. Et je crois que c'est peut-être quelque chose qu'on a peu entendu sous cet angle-là. Ça concerne les pensées, le renouvellement des pensées par le Saint-Esprit. On va voir cela ensemble. On a chanté tout à l'heure que Jésus est le sauveur de notre âme. Et souvent, les gens sont un peu mal à l'aise avec cette notion de l'âme, parce qu'ils ne savent pas trop dans quelle case ça doit aller. On entend dire qu'il y a un esprit, qu'il y a une âme. Dans cette âme, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est la pensée? Donc, on va essayer de clarifier rapidement tout ça ce matin. Et c'est tellement important ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Et je dirais même dans notre cerveau et dans notre cœur. Parce que sans cela, eh bien, toute la rédemption que Christ nous a acquise ne pourra pas se manifester dans cette dimension-ci. J'aurai l'occasion d'en parler. Alors, sans plus attendre, il y aurait de quoi faire un cours de 3 heures ou 4 heures hein, sur ce sujet-là. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement sur certaines notions. D'abord parce qu'on les a déjà entendues. Par exemple, le fait, vous pourrez le lire chez vous. Alors, je vous encourage à réécouter ce message sur Internet parce que je vais donner pas mal de références que je ne lirai pas forcément par manque de temps. Mais je vous encourage à le réécouter et à lire cela de votre côté et à étudier cela de votre côté. La Bible nous dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que l'homme a été créé par Dieu en trois parties, non pas en deux parties. Beaucoup de gens, beaucoup de religions pensent qu'il y a un être extérieur et un être intérieur, mais la Bible nous dit clairement qu'il y a trois parties. Dieu a créé l'homme, il lui a donné un corps, mais ce corps, on le sait, n'est pas éternel, contrairement à celui qui nous attend par la suite. Ce corps n'est pas éternel et il n'est surtout pas l'être humain en tant que tel. Il est une enveloppe dans laquelle nous fonctionnons dans cette dimension. Ensuite, l'être humain possède une âme, on va en parler aujourd'hui, c'est-à-dire le siège de tout ce qui va être nos émotions, notre volonté, notre capacité de réflexion, notre mémoire, etc. Mais fondamentalement, l'être humain est un esprit. C'est la partie, je dirais, éternelle que Dieu a créée avant toute chose, on va le voir ensuite. Et cet esprit, eh bien, c'est cet esprit qui est régénéré lors de la nouvelle naissance. C'est cette partie de notre être que le Saint-Esprit, lorsque vous recevez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, c'est là que le Saint-Esprit vient faire son travail. Et nous, ce que la Bible appelle cette nouvelle naissance, c'est vraiment un nouveau départ dans la vie. Amen. Bien. Rapidement également, vous relirez dans Genèse chapitre 2, au verset 7, il nous est dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé de la poussière du sol, ça on le sait, mais il nous est dit qu'ensuite Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle vital. Et l'étude de l'étymologie est intéressante parce que dans 1 Corinthiens 15, 45, il est repris ce verset, il nous est dit que ce n'est qu'à ce moment-là que Adam est devenu une âme vivante. Pas lorsque Dieu l'a créé avant de la poussière du sol, mais lorsque Dieu a soufflé en lui. Et le mot soufflé en hébreu, c'est le mot neshama qui correspond à l'esprit. L'équivalent du grec pneuma qui veut dire la même chose, souffle, vent, esprit, c'est-à-dire cette partie de nous qui est née de nouveau lorsque nous recevons Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est dit que Adam est devenu une âme vivante, le grec nous dit qu'il est devenu un psychisme vivant. Autrement dit, quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un corps, il lui a donné une âme, c'est-à-dire une capacité de raisonner, une capacité d'analyser, une capacité d'imaginer, une capacité de ressentir. Mais pour Dieu, ça ne suffisait pas parce qu'à ce stade-là, Adam était mort. Et ce n'est que lorsque Dieu a soufflé l'esprit dans Adam que la Bible nous dit Adam est véritablement devenu vivant. Moi, je pense que Adam était déjà debout sur ses deux pieds avant que Dieu souffle en lui. Au sens humain, biologique du terme, il vivait. Mais au sens de Dieu, il ne vivait pas. Il n'a vécu qu'à partir du moment où Dieu a soufflé son esprit en lui. Et là, Dieu dit, ça s'appelle la vie. Ce qui est intéressant, c'est que à la chute, c'est-à-dire lorsque l'homme, avec un grand H, a décidé de dire « moi, je vais faire sans Dieu », eh bien, on sait qu'il s'est déconnecté de cette vie de Dieu. Il s'est déconnecté de cet esprit de Dieu qui était en lui. Est-ce que l'homme est biologiquement mort sur le coup ? Réponse non. La mort est entrée dans le monde et elle a commencé à faire son travail. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'à l'époque d'Adam, il a fallu plusieurs centaines d'années avant que le corps ne se dégrade. Mais l'être humain, au sens médical du terme, vivait toujours. Sauf que pour Dieu, Dieu avait dit « le jour où tu me désobéiras », c'est-à-dire le jour où tu mangeras de cet arbre que je t'ai interdit, tu mourras. Mais Adam n'est pas mort biologiquement, il est mort spirituellement. Si, au moment où Dieu a soufflé dans ses narines, la Bible nous dit qu'il est devenu un psychisme vivant, au moment où il s'est déconnecté de cet esprit de Dieu, il est donc devenu quoi ? Un psychisme mort. Et voilà la condition de l'être humain sans Dieu. Voilà ce qu'est ton voisin, ton collègue de travail, le membre de ta famille. Voilà qui tu étais avant de recevoir Jésus dans ta vie. Ah, tu n'étais pas mort physiquement, mais tu étais mort spirituellement. C'est-à-dire que pour Dieu, la capacité de raisonner, un cerveau qui fonctionne, la capacité d'analyser, la capacité de rêver, les émotions que l'on ressent, ça ne s'appelle pas vivre. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit vient en toi que tu vis. Ça, c'est la base de notre étude aujourd'hui. Il va falloir vous accrocher parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis plutôt un enseignant. C'est-à-dire que j'aime décortiquer les choses et expliquer aux gens le mécanisme. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ça a changé ma vie. Littéralement. Bien. Vous relirez également donc certains passages tels que Genèse 3:3, Romains 1:18, Éphésiens 4:17. Il nous est dit que, on va en relire certains d'ailleurs après, il nous est dit que l'être humain sans Dieu est livré à sa façon de penser, livré à sa soi-disant sagesse. Vous savez, on a tous fait nos choix dans la vie où on a mis Dieu de côté à un moment ou à un autre, et on a vu le résultat. Moi, vous, on est exactement pareil à ce niveau-là. Tous les êtres humains sont passés par là. Le résultat, c'est la mort, d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas la mort physique, ça peut être une perte de santé. Si ce n'est pas une perte de santé, ça peut être la mort d'une relation. Ça peut être une peur qui vient en toi. Ça peut être une honte qui vient en toi. Toutes ces choses-là sont des symptômes, d'une façon ou d'une autre, de la mort. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu donner la vie. Que le Saint-Esprit, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la vie qui vient. Amen. Dans les Écritures, tout ça c'est mon introduction, il nous est dit également que Jésus est devenu un esprit vivifiant. Vous l'avez peut-être déjà lu. Dans 1 Corinthiens 15, 45, la deuxième partie du verset, il nous est dit que Adam, quand Dieu a soufflé en lui, est devenu un psychisme vivant, mais par opposition, Jésus est devenu un esprit, pas un psychisme, un esprit vivifiant. C'est-à-dire que Adam a reçu la vie. Jésus, par tout ce par quoi il est passé, sa mort et sa résurrection, est devenu un esprit qui nous donne la vie, vivifiant. C'est une action qu'il fait en nous. Ok ? Donc la nouvelle naissance, c'est cela. C'est pas simplement changer de religion. C'est pas simplement changer de lieu de culte. Ça n'est même pas simplement un espoir ou une espérance. Oui, ça on l'a vu. Mais c'est véritablement une transformation qui prend place à l'intérieur de toi. Parce que Jésus, un esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, vient en toi et te donne la vie. Ok ? Très bien. Vous relirez également que de Jean 3, 5 à ce sujet et Tite 3, 5. Et enfin, dans Éphésiens, et on va tourner ensemble, s'il vous plaît, dans Éphésiens, nous savons au chapitre 1, verset 3, que toutes les bénédictions spirituelles nous ont été données déjà par Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans Éphésiens, il nous est dit que grâce à Jésus, chapitre 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Bien, on sait donc que grâce à ce que Jésus a fait, tout cela est à notre disposition. C'est quoi les bénédictions spirituelles ? C'est tout ce dont tu peux avoir besoin. La santé. La paix, des relations restaurées, la joie, la prospérité à tous les égards. On parle souvent d'argent, mais il n'y a pas que ça. Ça en fait partie aussi. Parce que ne pas réussir à payer ses factures à la fin du mois, c'est une source de tourment, c'est une source d'inquiétude. Et Dieu veut qu'on soit sans tourment et sans inquiétude. Donc si ça doit passer par le fait de payer nos factures, Dieu n'a aucun problème avec ça. Et même au-delà, pour pouvoir donner aux autres de manière à les bénir. Toutes ces choses-là, la paix, la joie, la justice, la satisfaction, tout ça est à nous. Mais la Bible nous dit que c'est dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, en Christ. Ma question est, comment je le fais manifester dans cette dimension-ci ? C'est très bien, je suis très content que ça soit au ciel. Mais la Bible nous dit clairement qu'on peut régner sur cette terre dès à présent, que ce que Jésus a fait nous permet d'expérimenter ces choses dès à présent. Ma question est comment ? Comment est-ce que je l'attire de cette dimension-là à cette dimension-ci ? Alors, on a beaucoup entendu parler de la foi. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dirait presque que c'est un effort au bout d'un moment, la foi. C'est « je vais croire, je vais croire, je vais croire ». Bien, j'ai une question. Qui a déjà mis sa foi en action et n'a pas vu le résultat ? Sur un sujet ou un autre. Ok. Bon, j'ai des gens honnêtes, c'est déjà ça. Ceux qui n'ont pas levé la main, soit ça fait très peu de temps que vous êtes en Christ, soit vous dormez, soit vous mentez. Mais c'est ok parce que le mensonge fait partie des choses que l'on va traiter aujourd'hui, donc tout va bien. Le titre de mon message, c'est « La vérité, ministère du Saint-Esprit ». La vérité, la vérité. Éphésiens 1, 3. Je vous lis simplement dans les Proverbes, il nous est dit au chapitre 23, « Tel un homme pense, tel il est ». C'est-à-dire que tes actions, ce que tu vas vivre sur cette planète, ne dépend pas de ce que Dieu a fait. Ne dépend pas de les conséquences des choix des autres. Ah oui, bien sûr qu'on est tous victimes à un moment ou à un autre de ce que quelqu'un d'autre a fait. Des choses graves, des choses légères, peu importe. Mais fondamentalement, la Bible nous dit que ce qui se passe dans notre vie, c'est dicté par ce qui se passe entre nos deux oreilles. La manière dont tu penses va déterminer exactement ce que tu vis. Vous savez, c'est un exemple curieux, mais je me suis rendu compte à quel point l'être humain est cruel parce qu'il se rend compte qu'il détecte tout de suite la faiblesse chez la personne d'en face. Et l'être humain, la chair, je dirais, sans Dieu, a cette tendance naturelle à vouloir aller appuyer quand il sait que ça fait mal à la personne d'en face. Quand quelqu'un est faible, on a tendance à vouloir l'utiliser. Bien, ma question est, pourquoi avec certaines personnes, on ne le fait pas ? Parce que ces personnes ne se considèrent pas comme faibles. J'utilise souvent cette image, j'ai dit, que ce soit par exemple à propos de ma fille. Et je dis à Sarah, des fois, elle lui dit, la petite ne demande rien, et parfois, on a tendance à lui dire, bon, est-ce que tu veux ça ? Et puis, on se rend compte que, ah, il n'y a pas dans le placard, alors c'est embêtant, tu vois, j'aurais mieux fait de me taire à ce moment-là. Et maintenant que la petite lui a dit, est-ce que tu veux ça ? Ah, mais je veux, je veux, je veux. Et je dis, pourquoi t'as dit ça ? Quand les lions ont senti l'odeur du sang, t'es fini. Mais entre êtres humains, c'est la même chose. Je me suis rendu compte souvent que la manière dont tu te considères, t'as pas besoin de parler, la manière dont tu te considères, c'est la manière dont les gens vont te traiter. Incroyable ! Il y a quelque chose de presque magique qui se passe là-dedans. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Bien. Car il est comme les pensées de son âme. Tel il pense, tel il est. D'où l'importance de se dire, mais qu'est-ce que je pense, au fait ? Qu'est-ce qui se passe dans mon âme ? On va voir ce que c'est que l'âme, rapidement. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à expérimenter sur cette terre les promesses que Dieu me donne ? L'apôtre Paul lui-même, dans Éphésiens 1, après avoir exposé tout le plan de Dieu, vous relirez Éphésiens 1, du verset 1 au verset 14. Il expose tout le plan de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de Christ, les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données, qui sont maintenant nôtres dans les lieux célestes, le fait que nous ayons été choisis par avance, le fait que nous ayons été purifiés par le sang de Jésus, lavés de tous nos péchés, passés, présents, futurs, le fait que nous soyons co-héritiers en Christ, le fait que Dieu nous a révélé son plan, extraordinaire, et il termine même en disant, et le fait que pour preuve de tout ça, nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage, c'est-à-dire la preuve, l'avant-goût, le dépôt, je ne sais pas si vous avez déjà eu recours à un prêteur sur gage, c'est-à-dire le dépôt que tu laisses en garantie que le gros morceau arrive. Le Saint-Esprit. Et après avoir exposé tout ça, il dit quelque chose de très important dans cette prière qu'on connaît, qui est des versets 15 au verset 23. Il dit notamment, il faut prier pour comprendre. D'abord, il faut prier pour que Dieu nous donne tout ce que je viens de vous exposer là. Il faut prier pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. La première chose à faire, c'est que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'on connaisse Dieu. Et ensuite, il dit, il faut prier pour que Dieu éclaire les yeux de notre intelligence. C'est-à-dire que tout ce qu'il a détaillé dans Éphésiens 1 jusqu'au verset 14 ne peut pas être saisi par l'intellect humain. Si tu veux réfléchir avec les choses de Dieu, sans avoir la lumière du Saint-Esprit, tu ne comprendras pas, tu ne recevras pas, parce que tu vas vouloir réfléchir à partir d'un psychisme qui est le psychisme d'Adam, c'est-à-dire un psychisme mort. Tu ne peux pas comprendre Dieu et les choses de Dieu mathématiquement. La science nous aide. La science révèle des choses extraordinaires. La question aujourd'hui des ondes gravitationnelles, etc., c'est... Moi, j'y comprends rien, mais je me régale à lire des articles sur le sujet parce que les 0,1% que je comprends, ça ouvre des pans entiers de connaissances par rapport à ce que Dieu a dit et comment Dieu fonctionne. Mais le plus grand cerveau scientifique de notre siècle ne pourra pas comprendre les choses de Dieu ni recevoir, quand bien même il serait chrétien, ce que Dieu lui a donné sans que le Saint-Esprit vienne éclairer son intelligence. Et c'est le sujet de mon message aujourd'hui. Il faut que le Saint-Esprit vienne renouveler notre façon de penser. Sans quoi nous ne pourrons pas saisir ce que Dieu nous a donné et nous ne le verrons pas parce que ce qui se passe entre nos deux oreilles va bloquer le passage des choses de Dieu de cette dimension-là à cette dimension-ci. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? On va le voir ensemble. Bien. Donc Paul nous invite à prier pour recevoir un esprit de sagesse. En grec, c'est pneuma. C'est le même mot que le Saint-Esprit. Et ensuite, il nous dit que Dieu doit éclairer les yeux de notre intelligence. Le mot intelligence en grec ici, c'est dianoia. Alors, ça a donné lieu à de gros échanges entre les philosophes grecs de l'Antiquité. Quand vous lisez les Écritures, vous allez avoir des mots que l'on considère comme étant interchangeables. Je ne peux pas vous enseigner sur le sujet aujourd'hui, d'abord parce que je suis moi-même en train d'étudier la question, et ensuite parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous allez avoir des mots comme âme, esprit, pensée, raisonnement, intelligence, cœur, et tout ça, on ne sait pas très bien comment le prendre, parce qu'on n'arrive pas à comprendre les nuances entre les choses. Ici, dianoia, ça s'oppose souvent à un autre mot qui est traduit par intelligence ou âme, qui est le mot nous, comme nous en français, N-O-U-S. Et disons que dianoia, c'est la capacité de raisonnement, d'analyse. Pas forcément besoin d'être un grand cerveau scientifique, hein, mais quand à un moment donné, tu dois préparer un plat, faire la cuisine, tu vas commencer à raisonner. Enfin, tu devrais en tout cas. Il y en a peut-être qui devraient. Oh, je sais pas, on verra. Allez hop, on met tout là-dedans. Non. C'est, attends, il me faut telle quantité de cela. Là, il y a une durée spécifique à respecter. Ensuite, non, il faut d'abord que je fasse ça parce que sinon ça va être trop cuit. Voilà. Cette capacité d'analyse de raisonnement, ça peut être dans nos métiers respectifs, ça peut être au quotidien, dans l'informatique, peu importe. Dieu dit, par l'intermédiaire de Paul, si tu veux recevoir tout ce que je t'ai promis dans Éphésiens 1, 1 à 14, il faut que j'éclaire ta faculté de raisonnement et d'intelligence, d'analyse, sans quoi tu vas passer complètement à côté. On sait également que, je crois que c'est dans Jacques, je sais plus, dans Timothée ou Jacques, la Bible nous dit qu'il y a deux genres de sagesse. Une sagesse qui vient de Dieu, qui est pure, qui est spirituelle, mais il y a une autre sagesse qui, nous dit-on, est charnelle et diabolique. Alors, c'est des mots qu'il faut expliquer. Charnel, ça veut dire psychique. C'est très intéressant, c'est le mot psyché. Diabolique, ça veut tout simplement dire qui ne pense pas comme Dieu, qui est séparé de Dieu, qui va avoir tendance d'abord à te mettre toi au centre du sujet et des préoccupations, ce qui est une très, très mauvaise manière de raisonner. Et en plus, qui ne réfléchit pas comme Dieu réfléchit. Donc, la Bible nous dit, attention à cette sagesse, attention à cette façon de penser du monde. Sans Dieu, uniquement basé sur tes capacités intellectuelles. Tu dis, mais alors est-ce que Dieu nous appelle à ne plus réfléchir? Est-ce que nous sommes des esprits, donc maintenant tout est spirituel? Ah, j'entends la voix du Saint-Esprit. Ah, oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça, on dirait qu'ils ont complètement débranché le cerveau. Hein. Si tant est qu'il ne l'ait jamais branché. C'est-à-dire, c'est à 5 mètres du sol. Et ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et c'est là où c'est intéressant. Dieu nous dit que ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées, c'est vrai. Mais Dieu nous dit aussi, tu dois renouveler ton intelligence. Il ne nous est pas dit, tu dois abandonner ton intelligence. On va le lire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une façon de penser et il est bon de réfléchir. Et il est bon de penser. Et il est bon d'analyser. Mais assure-toi que le Saint-Esprit fasse son œuvre en toi avant d'utiliser ton intellect pour essayer de comprendre et de recevoir les choses de Dieu. L'être humain, l'être charnel, l'être psychique sans Dieu ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Quand bien même elles lui ont été données à la croix, quand bien même elles sont à ta disposition en Christ. Tu pourras prier tout ce que tu voudras, tu pourras jeûner tout ce que tu voudras, tu pourras supplier tout ce que tu voudras, tu ne recevras pas. Ou plus exactement, tu as déjà reçu, c'est là-haut, mais tu ne le verras pas se manifester ici. Pourquoi ? Parce que tu ne passes pas le temps qu'il faut à renouveler tes pensées. Et que tu penses que les choses de Dieu sont purement spirituelles et n'ont rien à voir avec l'intellect. Or, c'est faux, ça n'est pas scripturaire. On continue ? Andrew ou Mac, tu peux afficher, s'il te plaît, Clélia. Andrew ou Mac symbolise cela de la façon suivante. Un tuyau, voilà. Avec d'un côté l'esprit, de l'autre côté le corps. On pourrait dire d'un côté le monde céleste, spirituel, ce qu'on a vu dans Éphésiens 1, c'est là où Dieu a tout donné en Christ. De l'autre côté le corps, c'est-à-dire cette dimension naturelle, ta vie de tous les jours, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, la vie dans cette dimension. Entre les deux, il y a une valve ou une vanne, peu importe, qui est ton âme, c'est-à-dire, alors j'inclus là-dedans, une fois encore, j'ai pas le temps de rentrer, mais la capacité d'analyser, la mémoire, la capacité de raisonner, la capacité de rêver, d'imaginer, les souvenirs, les émotions, etc. Je crois que pasteur Marie-Hélène prêchera, elle est encore en train d'étudier le sujet, mais sur à quel point notre cœur est tout aussi important que notre tête. Quand je dis notre cœur, c'est-à-dire l'organe cardiaque, qui pourrait être, peut-être contenir cette partie de nous, c'est possible. Vous avez déjà remarqué, souvent on dit l'âme, c'est le siège des émotions. Et on met l'âme dans le cerveau uniquement. Le problème, c'est que si tu apprends une très mauvaise nouvelle ou un truc qui te choque, c'est pas ta tête qui morfle en premier. C'est là. C'est ça te coupe le souffle. L'émotion, elle n'est pas générée par ton cerveau, elle est générée dans ton cœur. Et ensuite, ton cerveau commence à prendre le relais pour analyser les choses. De la même façon, quand on t'annonce une très bonne nouvelle, quand c'est quelque chose vraiment, je sais pas, la naissance d'un enfant ou quelque chose comme ça, de ton enfant, c'est... Ça vient du cœur. Et la science est en train de démontrer que le cœur est un petit cerveau. Je ne rentre pas plus là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant. Donc l'âme, on pourrait dire, c'est tout cela. Ton cœur et ton cerveau, disons-le comme ça. Ça fonctionne comme une valve ou comme une vanne. Si le robinet reste fermé, et on sait qu'à la base, il l'est, puisque c'est la capacité d'analyser, mais sans Dieu. Or, comment veux-tu recevoir les choses de Dieu qui sont dans le monde spirituel, si ton âme continue à penser comme celle d'un Adam déchu, c'est-à-dire celle d'un être psychique uniquement, et mort. Impossible. Il va donc falloir que d'une façon ou d'une autre, tu ouvres le robinet, c'est-à-dire tu ouvres le barrage, tu laisses passer progressivement les choses du royaume spirituel au royaume corporel. Peut-être que tu l'as déjà vu dans ta vie, moi je l'ai déjà vu dans la mienne, je l'ai vu dans beaucoup de domaines, je l'ai vu dans le domaine des finances. À savoir que ma façon de penser était uniquement dictée par l'éducation que j'avais reçue. Et l'éducation que j'avais reçue, il n'y avait pas un gramme de Dieu à l'intérieur. Donc, c'est ne dois rien à personne, mérite, gagne ta croûte, mets-en un max de côté, ne fais pas d'emprunt et de manière générale, ne dépense pas trop. Complètement opposé avec la pensée de Dieu qui consiste à dire c'est Dieu qui te nourrit. Tu fais ta part. Mais c'est lui qui te nourrit. Et quand il te dit donne, tu donnes. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas propriétaire de tes biens ni de ton argent. Tu es un gestionnaire et tu dois être un sage gestionnaire. Mais comment veux-tu être un sage gestionnaire si dans ta tête, il n'y a pas un gramme de Dieu parce que tes façons de penser, c'est les 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80 ans d'éducation bien mondaine que tu as reçue dans ce monde. Tout dans ce monde n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de diaboliser, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont sages. Mais en ce qui concerne le fait de recevoir les choses spirituelles dans cette dimension, il faut renouveler nos pensées, il faut ouvrir le barrage. J'espère que cette illustration va vous rester. Il faut ouvrir ce barrage au fur et à mesure. Vous comprenez comment ça fonctionne ? Ouais ? Ok, on continue. Donc vous avez compris qu'à la nouvelle naissance, notre psychisme n'a pas disparu. Notre façon de penser n'a pas disparu. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as une joie, tu te sens libéré. Les témoignages sont intéressants. Les gens disent, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai un poids de 100 kilos qui est parti de mes épaules. J'ai plus peur de la mort. Mais ta façon de penser, elle, bon, tu es heureux, tu as une espérance, tu as des amis, tu as une famille, tu as une église, c'est super. Mais ta façon de penser est exactement la même. C'est-à-dire, hormis cette joie que tu as reçue, ta manière de voir les choses, ta manière d'analyser les choses, ça ne change pas du jour au lendemain. C'est pour ça que la Bible nous dit, ton esprit, lui, il est né de nouveau. Mais ta pensée, ça va être le travail de toute une vie, de la renouveler, de la changer, de la transformer. Vous comprenez ? Ok. Bien. Le renouvellement de notre intelligence. Regardez dans Romains 12, s'il vous plaît. Ça va, vous êtes encore avec moi ? Romains 12. Allez, on va essayer de se réveiller un peu. Romains 12, 2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Bien, on a compris maintenant de quoi il s'agit. « Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Des fois, tu dis « Ah, je ne sais pas ce que Dieu veut dans ma vie. Je prie, mais alors j'aimerais que le pasteur me donne une parole de connaissance, une prophétie, quelque chose. » Non, mais ça ne marche pas comme ça. D'abord parce que je t'engage à te méfier des prophéties qui sont un scoop, qui ne correspondent à rien. Tu n'as jamais eu ça dans ton cœur. Ah bon ? Je dois partir en Alaska ? Oh. Mais tout de suite ? Ah bon ? Tu crois que je dois épouser telle personne ? T'es sûr ? Ah, bon, bah, je vais obéir alors. Non mais l'angoisse quoi, t'imagines le truc ? Non mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que Dieu parle à ton cœur d'abord. Mais il y a des choses que Dieu essaie de te dire depuis 10 ans. Mais comme tu ne renouvelles pas tes pensées, bing, ça bute sur le barrage. Bing, ça veut rentrer mais la porte, ça passe pas. Parce que tu ne prends pas le temps de renouveler tes pensées. On va voir ensuite comment on le fait, d'accord ? Mais à un moment donné, tu ouvres, et de suite il y a un flot qui commence à s'engouffrer là. Dans ce sujet-là, Dieu t'a donné une révélation. C'est souvent ça qu'on appelle la révélation. C'est tout simplement tes pensées qui ont commencé à être ouvertes à ce que Dieu veut te dire. Et il y a de fortes chances que ce que Dieu veut te dire, ça chamboule un petit peu tes habitudes. Ça chamboule un petit peu ta façon de voir les choses. C'est un peu nouveau. C'est un peu contraire à ce que papa t'avait enseigné. Ou à ce que grand-mère a toujours dit. Ou à ce que, oui, mais mes expériences de la vie. Mais oui, mais tes expériences de la vie, elles sont via un psychisme déchu dans un monde qui vit selon un psychisme déchu. Donc forcément, il y a une façon de fonctionner ici, il y a des règles du jeu. Ce qui est super, c'est que Dieu nous dit « Non mais moi je veux changer quelque chose là. Je veux changer les règles du jeu. » Mais il faut que tu acceptes de dire « Ok, je prends un peu de recul par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Je prends un peu de recul par rapport à ce que je sais parce que la vie m'a appris que. » Mais ce n'est pas la vérité. Une réalité, tout au plus. Ce n'est pas la vérité. Donc, quand tu reçois une révélation, c'est que le barrage est en train de s'ouvrir sur un sujet. Et en général, ça provoque chez toi une telle joie que tu vas vouloir le raconter impérativement à ta cousine, qui, elle, n'a pas reçu la révélation. Elle va dire, mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ou à ta mère, ou à ton père, ou à ton frère, ou à ta fille, ou peu importe. Bon, c'est un peu frustrant. Hein. Imaginez le rôle du pasteur qui a reçu une révélation sur quelque chose et qui veut la partager à toute une congrégation, et les gens, c'est électroencéphalogramme plat. Enfin, n'y voyez rien de personnel, hein, je veux dire, juste que certains dorment, quoi, parfois. Donc, il nous est dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi ? Accepter de penser différemment. Accepter que votre vie soit différente de celle des autres. Accepter de dire, je vais sortir du moule dans lequel on m'a mis, ou du moule dans lequel je me suis mis. Le siècle présent ne fonctionne pas, mes amis. Ça ne fonctionne pas, à aucun niveau d'ailleurs. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous lis Éphésiens 4, 17, 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, le thème du message, c'est ce qui se passe dans notre cœur et entre nos deux oreilles. Hein. Selon la vanité de leurs pensées, ça veut dire quoi? Selon leur nous, en grec, leur âme, leur intelligence, leur façon de raisonner, leur façon d'imaginer, leur façon de voir le monde. C'est vain, ça veut dire quoi? C'est mort, c'est creux, ça ne va nulle part. Ils ont l'intelligence obscurcie, dianoïa, la capacité de raisonnement d'un être sans Dieu est totalement enténébrée. Tu as déjà eu une coupure de courant à la maison par une nuit sans lune? Et tu n'as pas racheté de bougies? Et ton téléphone n'a plus de batterie? Et tu cherches ton chemin? Et tu renverses le vase de la grand-mère avec les cendres dedans? Non, je plaisante. Non. Bon, je bouscule un peu, ça va. Hein. Non mais, c'est ça l'intelligence obscurcie. Et ce monde essaye de nous apprendre quelque chose. Et on croit qu'on va saisir les choses de Dieu en pensant comme ça, parce qu'on pense comme ça. Si on ne renouvelle pas nos pensées, on pense comme ça. Par défaut, on est programmé par notre culture, notre éducation, nos expériences. Eux, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, cardia en grec, cardiaque. L'endurcissement. Donc c'est dur, c'est vain, c'est enténébré, obscurci. Et tout ça se passe dans notre tête et dans notre cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà à quoi ça amène un homme sans Dieu ou une femme sans Dieu. Ça termine toujours dans le même fossé, c'est-à-dire la cupidité, l'argent, et l'impureté sexuelle la plupart du temps. Voilà, on va tous dans le même endroit si on n'a pas Dieu dans nos pensées. Ce qui est terrible, c'est que ça peut tout aussi bien décrire un chrétien dont les pensées n'ont pas été renouvelées. Puisque Paul écrit à qui? Il écrit aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Et il leur dit, mes amis, malgré votre nouvelle naissance, vous avez du pain sur la planche. Parce que si vous ne faites pas quelque chose avec vos pensées, vous allez finir exactement comme les gens du monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on finira en enfer. Mais ta vie sur cette terre va être exactement comme celle de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Malgré toute ta belle théologie, malgré toutes tes croyances, malgré les heures que tu as pu passer à l'église ou à prier. Il s'adresse à des chrétiens. Souvenons-nous, quand on lit les épîtres, que Paul s'adresse à des chrétiens. Vous ne devez plus marcher comme ça. Nous ne devons plus marcher comme ça. Ensuite, il nous est dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. » Bien sûr que si quelqu'un n'a jamais entendu parler du Seigneur, mais entendu, ça veut aussi dire écouter et comprendre. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent s'asseoir pendant 20 ans dans une église, mais ils n'entendent rien. C'est comme quand je dis à quelqu'un, j'entends ce que tu dis. Ça ne veut pas juste dire, oui, bah, forcément, tu parles tellement fort que j'ai entendu ce que tu as... Non, ça veut dire, je comprends ce que tu es en train de me dire. J'entends. La capacité d'entendement. Ici, il nous a dit, si vous avez entendu Christ, alors votre vie va être différente. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, la vérité, c'est en lui que vous avez été instruit. Instruit à quoi? À vous dépouiller, verset suivant, eu égard à votre vie passée du vieil homme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner son père. Hein. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Encore que. Moi, je te pose une question. Qui t'a appris à penser comme tu penses? Pourquoi est-ce que tu penses comme tu penses? Pourquoi est-ce que tu penses ce que tu penses? Réfléchissons un instant. Quelle est ta conception d'un employeur, par exemple? Un petit chef? Un capot? Quelqu'un qui est là pour nous casser les pieds? Pour nous payer le moins possible? Pour nous en demander toujours plus? C'est très français comme façon de penser. Hein, non, mais pourquoi est-ce que tu penses ça? Ah ben parce que mon chef est exactement comme ça. Mmh. Moi, je te pose une question. Et celui de tes parents, il était comment? Tu entendais quoi au sujet d'un employeur quand tu étais gosse et que tes parents rentraient à la maison ? Autre sujet. Les gens qui ont peur de se marier, peur de s'engager. Pourquoi ? Quel exemple tu as eu ? Divorce à répétition dans la famille ? Ou divorce, un divorce suffit, celui de tes parents, c'est déjà pas mal. Ou celui de ton oncle et ta tante, que tu aimes tant. Qu'est-ce que ça crée en toi comme façon de penser ? Souvent, c'est dans l'enfance que ça se passe. Geneviève, je parle sous ton contrôle. On a la chance d'avoir une psy avec nous. Donc tu m'envoies ta bouteille d'eau si jamais je dis une bêtise. Non mais, l'intelligence, la façon de penser, le raisonnement, ça ne se construit pas sur rien. Ça se construit sur des expériences, ça se construit sur des, entre guillemets, vérités qui se sont ancrées en nous, souvent dans l'enfance, et qui ont ensuite été des fondamentaux. Toute notre vie est basée sur notre façon de penser. Mais notre façon de penser est basée sur quoi ? Alors le problème, c'est si vous vous rendez compte que, et ça a été mon cas, comme celui de ma sœur, vous aimez tellement papa-maman, maman en l'occurrence, mais elle est tellement en souffrance que si je ne fais pas ce qu'elle me dit, elle va souffrir. Et sans le vouloir, on adopte une façon de penser, presque par amour pour autrui, mais qui n'est pas fondée sur les Écritures, qui n'est pas fondée sur la vérité. Là où ça devient vicieux, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à vouloir vous affranchir un petit peu de cette façon de penser, la première chose qui s'élève en vous, c'est de la culpabilité. Non, non, ne le fais pas, parce que sinon tu vas trahir. Et c'est là que l'intervention du Saint-Esprit est nécessaire. Je respecte beaucoup le travail des psys parce que il nous amène à voir certaines choses. Vous savez, l'âme, c'est une des trois parties que Dieu a créées en nous. On sait à quel point le corps humain est quelque chose de complexe. Pourquoi est-ce que l'âme serait tellement plus simple ? C'est quelque chose de complexe. Donc il y a des professionnels. Comme il y a des médecins qui connaissent le fonctionnement du corps, il y a des professionnels qui connaissent le fonctionnement d'une âme, c'est-à-dire d'un psychisme, d'une capacité de raisonner, d'analyser, de penser, d'imaginer, de rêver. Le problème, la limite à leur intervention, c'est qu'ils ne peuvent pas nous guérir. Ils peuvent nous montrer la porte, mais ils ne peuvent pas la franchir pour nous. Ils peuvent nous dire, voilà, le problème vient de là. Ils peuvent nous dire, voilà, le problème vient d'un problème de pardon vis-à-vis d'un tel. Mais le psychologue ne peut pas te donner la force de pardonner. Qui peut te donner cette force ? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui t'est donné, qui est déversé dans notre cœur, Romains 5, qui te donne la capacité de pardonner. Et alors tu es libéré de certaines choses. Moi, je vous encourage. Réfléchissez à vous-même, sur vous-même. Oui, mais il ne faut pas trop réfléchir sur soi, c'est de l'orgueil, c'est de l'égocentrisme. Ah oui ? Qui t'a appris ça ? Voyez-vous, il y a des causes et il y a des conséquences. Il y a des origines et il y a des symptômes. Quand tu vois un symptôme dans ta vie, réfléchis à sa cause. Là, je sais que j'ai votre attention. Ça se sent. Réfléchis à sa cause. Bien ? Il nous est dit donc, nous devons, Éphésiens 4, 17 à 24, nous dépouiller du vieil homme. Donc une fois encore, ça peut être intéressant, ça peut être une façon de penser qui nous a été transmise. En tout cas, c'est notre ancienne nature, notre ancien nous. C'est tout ce qui est dans le domaine du corps, non encore irrigué, je dirais, par le domaine spirituel. Ce vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est quoi les convoitises ? Ah, c'est ce que tu désires. J'ai besoin. Alors on va dire, quand je dis ça, on dirait un obsédé sexuel, vous savez. Non, pas forcément. Quoique, ça peut être aussi le cas, mais il n'y a pas que ça. J'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin qu'on m'estime. J'ai besoin de toujours à la première place, quitte à jouer des coudes, à écraser un peu les gens pour être devant. Pourquoi ? J'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me reconnaisse. Ce qui est naturel. Le problème, c'est que tu vas vouloir satisfaire ce besoin légitime d'une façon illégitime. Tu penses que c'est dans ton job, en faisant 35 heures de travail par jour, que tu vas pouvoir enfin satisfaire. Non, ça s'appelle une convoitise trompeuse. Ah mais si j'ai la dernière bagnole, je vais être respecté. On a entendu parler dernièrement de quelqu'un qui a une très grande position dans la société française. Beaucoup d'argent. Un jour, il a perdu cette position. Cette personne s'est enfuie à l'autre bout de la planète parce qu'il ne supportait, littéralement, il a changé de pays, parce qu'il ne supportait plus de voir le regard des gens qu'il avait connus avec de l'argent et une position et des amis. Mais maintenant qu'il a perdu son job, il n'y a plus personne. Il n'a pas supporté le regard des autres. Il a dû s'enfuir dans un autre pays. Voilà, il a vécu toute sa vie dans des convoitises trompeuses. Ce vieil homme dont on doit se dépouiller, il est dirigé de la sorte. Et qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? On doit être renouvelé. Alors, dans certaines versions, c'est dans l'esprit de notre intelligence. Mais dans d'autres versions, et je les aime, c'est être renouvelé. Voilà. Là, par exemple, à Louis II classique, c'est dans l'esprit de votre intelligence. Mais dans d'autres traductions, c'est à être renouvelé par le Saint-Esprit dans notre intelligence. Renouvelé par le Saint-Esprit dans notre intelligence. Il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'on doit se laisser transformer. Pas se transformer. Comment veux-tu faire ça? Comment veux-tu aller à l'encontre d'une façon de penser? Non? Mais le Saint-Esprit, lui, peut le faire en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter. Accepter quand il commence à taper à la porte, dans une des portes de ton cœur, et de dire, maintenant, je vais m'occuper de ce sujet-là. Et de le laisser rentrer et faire son travail. Et à ce moment-là, tu vas, non pas te transformer, mais être transformé par le Saint-Esprit. C'est ça qui est génial avec Dieu. C'est une collaboration où c'est lui qui fait tout le travail. En nous, ça marche comme ça. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je prends la phrase dans l'autre sens. La vérité produit la justice et la sainteté. Ça, c'est ce dont est fabriqué l'homme nouveau que tu es appelé à revêtir. Mais tu comprends que ça ne peut pas, tu ne peux pas revêtir cet homme nouveau si tu n'acceptes pas la vérité. Et le problème, c'est que Dieu, bien souvent, vient à nous avec la vérité, mais on la refuse. Parce que c'est trop à l'encontre de ce qu'on a appris. C'est trop douloureux parce qu'on a tellement souffert dans ce domaine-là qu'on a construit des mécanismes de défense en disant « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas qu'on rentre dans ce sujet-là. Je ne veux pas que tu me parles de ma façon de considérer les hommes. Je ne veux pas que tu me parles de mes rapports avec mon père. » Mais il n'y a pas de liberté sans vérité. Parce que Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, vous demeurerez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité. Donc c'est en demeurant dans la parole qu'on connaît la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais si tu refuses cette vérité, tu refuses la liberté. Dieu ne t'en veut pas. Dieu t'aime toujours autant. Tu es sauvé. Si tu as accepté Jésus, mais tu passes à côté de la liberté sur cette terre, pour toi et pour les autres. Ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que le salut que Christ nous a acquis n'est pas seulement le salut de l'esprit, dans le sens où quand on quitte cette planète, on va aller au ciel. Il est question du salut de l'âme. Et l'âme, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles, mes amis. Le salut, le fait d'être sauvé, quand vous lisez les Écritures, vous voyez que c'est un processus qui est immédiat en ce qui concerne l'esprit, progressif en ce qui concerne l'âme. Jésus veut sauver ta façon de penser. Il veut te sauver de tes façons de penser. Mais il faut qu'on accepte. Et la plupart du temps, c'est la peur qui nous retient de le faire. Vous m'entendez souvent dire derrière un micro, il n'y a que deux grands pôles autour duquel tourne une vie humaine. L'amour, la peur. Et souvent, on refuse de s'approcher de l'amour par peur. Et on tourne comme si on était attiré par la gravité de ce truc-là. La peur, c'est en moi, je n'ose pas. Combien de choses... Réfléchis, tiens, je te donne un devoir cette semaine. Réfléchis à combien de choses de ta vie sont fondamentalement dictées par une peur que tu as. Des choses que tu fais alors que tu aimerais ne plus les faire. Des choses que tu ne fais pas parce que tu n'oses pas. Au fond, je suis prêt à parier avec toi qu'il y a toujours la peur. Toujours, sous une forme ou une autre, il y a la peur. La peur de souffrir, la peur de manquer, la peur de décevoir, la peur de trahir, la peur d'être seul, la peur de mourir, peu importe. La peur de l'échec. Combien de choses tu ne fais pas parce que tu as peur d'échouer ? Pourquoi est-ce que tu as cette peur ? Pourquoi est-ce que tu as cette peur alors que la Bible dit que tu vas réussir ? Parce que tu as déjà échoué dans ta vie et que tu ne veux pas que ça recommence. Parce que cette douleur était trop importante. Ou parce que tu as vu des gens autour de toi échouer et du coup ça a forgé. Les mariages sont voués à l'échec, ça sert à quoi ? Regarde mes parents. Et alors quand vous avez deux parents qui étaient en Christ, nés de nouveau, et qui malgré tout ont divorcé, qu'est-ce que ça fait dans un psychisme humain ça, d'un gosse à qui on a toujours dit « Non mais en Dieu tout est possible », à qui on a toujours dit ce genre de choses. Qu'est-ce que ça fait dans un esprit humain, dans une tête humaine ? Jésus veut nous libérer de cette façon de penser. Peut-être que ton premier mariage a été un échec. Peut-être que t'es pas tombé sur le bon type. Peut-être qu'il s'est pas comporté comme il fallait. Le problème, c'est quand tu en tires la leçon que tous les hommes sont pareils. Non, tous les hommes sont pas pareils. Mais tu veux pas, parce que tu as peur. Mais ça peut être des choses... Je veux plus jamais aller au tableau à l'école. Une fois, ça m'a suffi. Et ça va carrément ruiner une partie de ta scolarité. Jésus veut nous libérer de cette façon de penser. À nous laisser renouveler par le Saint-Esprit dans notre intelligence. Je n'ai pas le temps de le lire. Je mettrai sur Internet, vous allez avoir l'article avec le message que je suis en train de prêcher d'aujourd'hui, d'accord ? En dessous, il va y avoir un lien que je te donnerai vers un article de Reinhard Bonnke. Très intéressant article qui se trouve sur le site Enseigne-moi. Et Reinhard Bonnke explique, donc c'est un grand évangéliste hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait des voyages missionnaires en Afrique, il a, je ne sais plus combien de millions de personnes il a amené au Seigneur. Enfin, c'est un truc hallucinant, 7 millions, 70 millions, enfin je ne sais plus, c'est hallucinant. Reinhard Bonnke dit « Le Saint-Esprit n'agira jamais sans la parole de Dieu. » Non, c'est mieux que ça. Le Saint-Esprit suit la parole de Dieu. Là où la parole est prêchée, le Saint-Esprit agit. Donc, quand je dis « se laisser renouveler par le Saint-Esprit dans notre intelligence », tu ne peux pas le faire sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas le faire sans la Bible. Parce que le Saint-Esprit ne fera rien dans ta tête si tu ne mets pas la Bible pour l'activer, je dirais. Il exécute la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, notre intelligence n'est pas renouvelée. Donc je veux t'encourager ce matin. Passe du temps à lire les Écritures. Alors on va voir quelque chose ensemble. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Ce sujet a changé ma vie, hein. Ce sujet a changé ma vie. Il est encore en train de changer ma vie. Mais il a des impacts dans tellement de domaines différents. En amitié, en amour, dans ma famille, dans le ministère, dans l'église, dans ma relation avec Dieu, dans mes finances, dans ma relation avec ma fille, dans tous les domaines. Il a fallu que Dieu m'apprennent à penser différemment. Il a fallu, non pas que je débranche mon cerveau, mais que j'accepte de laisser progressivement la vérité de Jésus changer ma façon de penser sur certaines choses. Ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire des chrétiens, dans l'Antiquité, ont donné une espèce de méthode qui s'appelle la Lectio Divina, la Sainte Lecture. T'en as peut-être déjà entendu parler, Nabil, non ? Lectio Divina, ça te dit rien ? C'est intéressant, parce que c'est très simple, et en fait, c'est une méthode pour renouveler nos pensées. Ils expliquent que c'est en quatre étapes, et vous allez voir que c'est des choses que l'on fait. Hein. Mais c'était intéressant de voir qu'il y a une assise historique et théologique de la part de gens reconnus dans le corps de Christ à cela. La Lectio Divina, je vous lis l'article de Wikipédia, c'est très intéressant, lecture sainte, c'est une expression latine qui fait référence à une méthode de prière reprise du modèle judaïque et développée par les pères de l'Église. C'est un exercice de lecture spirituelle. En partant de la lecture d'un texte à caractère spirituel, la Bible par exemple, ou les psaumes, donc on part de la lecture. Tu passes un temps à lire les Écritures. Étape numéro 1, lecture. elle se prolonge dans la réflexion sur ce même texte, en latin « meditatio ». Donc tu lis les Écritures, puis quand tu as lu un passage de la Bible, tu poses ta Bible et tu réfléchis à ce que tu viens de lire, avec tes pensées, avec ton intelligence. Mais attends, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Comment ça se fait qu'il a dit ça alors que l'autre lui a posé telle question ? Attends, je médite. Ok, dans quel contexte ils étaient là ? Ah, mais c'était l'occupation romaine, mais ça change tout là. Les mecs, ils risquaient leur vie à aller dans les rues de Rome. Attends. Mais c'était dans le désert, il y avait du sable, il faisait chaud. Comment elle a pu traverser cette femme pour aller jusqu'au puits en plein cagnard à midi ? En plus, on nous dit, mais c'est ça. Pourquoi elle a fait ça ? Voilà, tu médites, tu réfléchis sur le passage que tu es en train de lire. Ensuite, ça se poursuit par un dialogue avec Dieu. Après avoir réfléchi, tu parles à Dieu du passage que tu viens de lire. Seigneur, je viens de me rendre compte que... Ou Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu lui as répondu ça ? Ah mais Seigneur, c'est intéressant parce que tu as dit dans tel autre passage, tu pries, tu parles à Dieu. La prière, c'est pas réciter des choses toutes faites. La prière, c'est parler à Dieu avec ton cœur. Et enfin, ça se termine par une écoute silencieuse de Dieu. À un moment, tu te tais. C'est dur ça, hein, au XXIe siècle. Tu te tais et tu écoutes si Dieu veut te dire quelque chose dans ton cœur. Quatre étapes très simples. La lectio divina se pratique seule ou en groupe de prière. Tu lis, tu réfléchis, tu pries et tu écoutes. Bon, c'est des choses qu'on fait déjà certains d'entre nous au quotidien, hein. Mais si tu ne le fais pas, fais-le. Voilà comment le Saint-Esprit va renouveler tes pensées. Tu passes un temps dans les Écritures, Saint-Esprit vient. Dans ta façon de réfléchir, à un moment donné, il va dire non. N'as-tu jamais fait attention que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut lire la phrase ? Ah bon ? Attends, tu reprends ta phrase ? Ah oui, effectivement. C'est là où la relation avec Dieu, elle devient surnaturelle et interactive. C'est là où le christianisme n'est pas simplement le fait de prier un Dieu lointain, mais c'est une véritable relation avec lui. C'est parce qu'il te parle. Dans ton cœur. Dans ta tête. Vous croyez que j'ai déjà entendu la voix ? Certains oui, mais moi non. La voix de Dieu dans mon salon un beau matin, 5h45. Oh ! Une lueur apparaît. Je suis là en peignoir, avec mon thé. Mais que se passe-t-il, Seigneur ? C'est peut-être arrivé à certains, pas à moi. En revanche, je peux affirmer aujourd'hui, oui, Dieu m'a déjà parlé à plusieurs reprises. Comment est-ce que je le sais ? Parce qu'une pensée me vient que je n'avais jamais eue auparavant. Et qui ouvre des pans entiers de réflexion dans ma tête. Vous pratiquerez cette chose-là ? Quatre étapes très simples. Tu lis, tu médites, tu pries, tu écoutes. Ok ? Dernière partie. Est-ce que j'ai encore votre attention ? Je ne sais absolument pas combien de temps j'ai prêché, et je m'en fiche pour tout vous dire. Parce que je vais aller au bout de ce que j'ai à vous dire ce matin. Et si vous vous endormez, tant pis pour vous, vous réécouterez le message. Dans Jean 8, 32, on l'a vu tout à l'heure, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui... Donc ces Juifs avaient cru en lui. Et en substance, il leur dit, ça ne suffit pas. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, demeurer dans la parole, c'est ce qu'on vient de lire. C'est ce qu'on vient de dire. La lectio divina, c'est une méthode pour demeurer dans la parole. Vous, alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Dans Jean 16, 12, 15, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, ou les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les recevoir. Si je vous dis tout ce que j'ai à vous dire, à titre individuel, sur ta mère, tu ne peux pas le recevoir. Pierre, il faut que je te parle de ta mère. Mais tu n'es pas en mesure d'entendre ce truc-là maintenant. Tu n'es pas en mesure. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, ça c'est un truc que Dieu m'a dit, que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, je suis l'esprit de vérité. Et jusqu'à présent, tu as cru que, comme la parole de Dieu est la vérité, j'allais te guider dans la Bible. Non, mais pas uniquement. Il y a des vérités sur ta vie que tu as besoin d'entendre. Ça fait partie d'une vérité. Et c'est encore plus personnel que ce que tu pourrais lire dans les Écritures. J'ai des choses à te dire sur un tel. J'ai des choses à te dire sur ce que tu as vécu à ce moment-là dans ta vie. Il faut que je t'amène dans la vérité. Et le Saint-Esprit nous guide. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc Dieu veut te parler de ta vie. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit il prendra ce qui est à moi et il vous l'annonce. Bien. Donc on a vu que via la parole de Dieu, le Saint-Esprit va corriger notre façon de penser. Et il va l'harmoniser avec la vérité. Cette œuvre prend place dans notre tête, c'est-à-dire dans notre raisonnement, et dans notre cœur, c'est-à-dire dans nos émotions, autrement dit, dans notre âme. C'est pour ça que quand on chante « Jésus, tu es le sauveur de mon âme », je me marrais ce matin en lisant ça, parce que je savais ce que j'allais vous prêcher. Je me dis « Oh oui, tu es le sauveur de notre âme, absolument ». Absolument. Bien. Vous savez que le péché modèle notre façon de penser. Le nôtre, ou celui de nos ancêtres, je dirais, ou de l'éducation que l'on a reçue, ou de la culture dans laquelle on a vécu. C'est quoi le péché ? Tout ce qui est séparé de Dieu. Pas forcément l'adoration satanique en buvant du sang. Non, ça peut être des choses beaucoup plus franco-françaises, contemporaines que ça. Hein. On a cette histoire qui est assez marrante. Je vous la raconte parce que c'est une blague, on peut dire. Un jour, il y a une petite fille qui voit sa mère préparer un gigot pour le dimanche. Un gros jambon, vous voyez. Et elle coupe les deux extrémités. Donc il y a une grosse part de viande qui est perdue. Elle le met dans le four, elle le fait cuire. Elle lui dit « Maman, pourquoi tu t'as coupé ces morceaux là du jambon avant de le mettre dans le four ?»« Ah ben je sais pas, tu sais, j'ai toujours vu ta grand-mère faire ça, donc je pense que c'est comme ça que ça cuit, quoi, tout simplement. Mais va lui demander hein, si tu veux. » Alors la semaine suivante, la petite fille voit sa grand-mère, elle dit « Mamie, j'ai une question à te poser, mais j'ai vu maman couper les deux extrémités du jambon pour la mettre dans le four, mais pourquoi ?» Alors elle dit « Oh, bah tu sais, ma petite fille, j'en sais rien pour tout te dire. J'ai vu ça, ma mère faire cette chose-là, donc j'ai toujours fait comme ça. Donc bon. Mais si tu veux lui demander, va voir mémé, elle est dans la pièce d'à côté. Alors elle va taper à la porte, mémé qui est là, un peu en train de faire la sieste. Mémé, hein, qu'est-ce que c'est ? Mémé, j'ai une question. J'ai vu maman et mamie, elles coupent les extrémités du jambon pour le mettre dans le four. » Mais alors, tout le monde dit que c'est parce qu'elles t'ont vu faire, alors à quoi c'est dû ? Comment ça se fait ? Ah ben c'est très simple ma petite fille, j'avais un four tellement petit, ça rentrait pas. Bien. Est-ce qu'on fait pas pareil dans notre vie ? Depuis quand notre famille se traîne ces trucs-là ? Vous savez, on parle souvent de la malédiction générationnelle. Oh, il y a un esprit qui vient, il se colle à toi comme un singe, là. Il te serre comme ça, et alors tu le transmets biologiquement à tes enfants, parce que c'est un singe biologique, c'est un singe génétique. Donc il rentre dans les gènes de la personne, et hop, il va serrer le... Non mais... Peut-être, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, la malédiction générationnelle... C'est les façons de penser pourries dont il faut qu'on se débarrasse. Mais qui se sont tellement accrochées à nous qu'on ne se rend même pas compte qu'elles sont là. Ce n'est pas manquer de respect à l'égard de nos parents ou de nos grands-parents. Mais ce sont des gens qui ne connaissaient pas forcément Dieu. Et ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, on a autre chose. Amen ? Bien. Le péché modèle notre façon de penser. Sans entrer dans le détail... Il s'avère que la science a découvert que le cerveau est un organe plastique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que c'est un organe qui est modelable. Il change de forme. Et il change de forme en fonction de ce qu'il y a dedans. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ta façon de penser... va littéralement modeler ton cerveau qui lui-même va provoquer ta façon de penser. Qui elle-même va provoquer des résultats dans ton corps. Mais ça marche dans l'autre sens, et c'est prouvé. On peut faire machine arrière et ramener un cerveau à son état avant problème, avant péché. Alors, je ne parle pas de quelque chose que tu as fait une fois, mais quand c'est devenu une pratique, une coutume, alors à un moment donné, il te faut véritablement renouveler tes pensées. J'adore quand la science confirme les Écritures. C'est un truc qui me fait triper. Voilà, j'emploie le mot, ça me fait triper. En acceptant de renouveler tes pensées, Dieu va littéralement remodeler ton cerveau. Tu en as bien besoin, comme le mien. Et ça va avoir des répercussions sur ton corps. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Ok ? Donc, voyez l'importance aussi de... Et je ne rentre pas plus dans le détail à ce sujet, mais voyez l'importance de renouveler nos pensées. Le Saint-Esprit va nous faire voir certains fondamentaux de notre vie sous un autre jour. Et la vérité va nous rendre libres de notre ancienne façon de penser. D'ailleurs, je réfléchissais hier au mot « fondamental ». C'est intéressant. Ça fonde le mental. C'est amusant. Les fondamentaux, c'est ce qui fonde tes schémas mentaux. Pas ton manteau, hein. Quoique, si ton cerveau modèle ton corps et que tu portes ce manteau trop longtemps, tu vas aussi modeler ton manteau. Non, j'en ai perdu certains, c'est pas grave, laisse tomber. Mais le Saint-Esprit va remuer un peu la tambouille de tes fondamentaux. Faut pas avoir peur, mes amis. Parce que quand tu as construit toute ta vie sur une façon de penser et que soudain, on te dit... Le Saint-Esprit te dit, maintenant je vais aller mettre un peu mon nez là-dedans si tu veux bien. Si tu veux bien, il ne nous forcera pas. Mais si tu veux bien, je vais aller commencer, comme un chirurgien, à aller mettre un petit coup de bistouri par-ci, par-là. Je vous donne un exemple. D'abord, sujet de réflexion. Comment Satan a-t-il emmené l'humanité dans la chute ? Il a changé la façon de penser d'Adam et Ève par un mensonge. Vous vous souvenez de cette histoire ? Le serpent était le plus rusé, Genèse chapitre 2. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit ? Tu peux manger de tous les arbres de jardin, mais celui-là, tu ne touches pas. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres ? Non, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Il les a feintés là. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Alors la femme a dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Elle ne lui a pas dit, non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Elle lui a dit, ben, de fait, on mange de tous les arbres, mais celui-là, il nous a dit de ne pas y toucher. Mais le doute était déjà instillé, là. Alors le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il a commencé à leur changer la façon de penser. Et au lieu de prendre directement position pour dire « Non, je refuse ce que tu dis, parce que tu mens et je ne t'écoute pas », il nous a dit ensuite « La femme vit que l'arbre était bon à manger. » Ma lecture personnelle, ça ne s'est pas fait en une seconde. Elle a dû laisser ce petit raisonnement, ce petit jeu de raisonnement, bien mariné pendant un certain temps, jusqu'à ce que carrément ça change sa façon de voir les choses. Et elle a fini par voir, oh, mais cet arbre-là, ce fruit, c'est bon à manger. Il était agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle en savait ? Elle n'avait même pas goûté. Elle a vu quoi ? Un mensonge. Mais ce fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu as commencé à voir comme ça parce que tu as pensé comme cela. Bien, quelles sont tes fausses façons de penser ? Je te pose la question. Mais c'est avec le Saint-Esprit que tu vas faire cet exercice et que tu vas commencer, si tu le souhaites, à ouvrir la porte. Je te donne un exemple. Quand j'étais gamin, c'est pas mon vrai exemple, hein, c'est un exemple que j'ai entendu. Quand j'étais gamin... Je jouais au foot et mon père était fan de j'étais fan de foot. Je faisais partie d'un club, j'allais en compète. Mon père n'a jamais assisté à un seul match. Pourtant, il savait que c'était important pour moi. Conséquence logique, je ne suis pas important pour mon père. Voilà ce que le gamin dans sa petite tête, analyse, psychisme humain, sans Dieu. Voilà la conséquence qu'il en tire. Et ça devient, à un moment donné, quoi ? Une forteresse. La Bible nous dit, quand une pensée s'enracine dans ta tête, ça devient une forteresse. Ça devient un fondamental. Le reste va se bâtir là-dessus. Vérité fondamentale, mon père ne m'aime pas. Quel est le genre de vie qu'on va construire là-dessus, dites-moi ? Exercice avec le Saint-Esprit. Seigneur, à un moment donné, le Saint-Esprit tape à ta porte. Oui. Tu sais cette tristesse que tu as en permanence ? Tu sais cette difficulté que tu as dû à obéir à un patron ? C'est directement lié à ton père. Touche pas ! Non, ne parle pas de ce sujet-là ! Je ne veux pas ! Non, non, c'est trop douloureux ! Mais non, qu'est-ce que tu racontes, Saint-Esprit ? Non. Alors, bien sûr, de prime abord, on ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui vient nous parler. On pense que c'est une pensée qui nous traverse la tête, comme ça. Moi, je l'ai vécu sur cette chaise-là, debout, à un temps de louange dans cette église. Et puis on y réfléchit. Puis il revient, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques ans plus tard. Il y a un truc avec ton père que je veux te dire. Bon, c'est quoi ? Alors ça peut passer par un professionnel, ça peut passer par une parole de connaissance que quelqu'un nous donne, ça peut passer par un temps de méditation de la Bible, et tu ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, pendant ta lecture de la Bible, hop, c'est le sujet qui arrive dans ta tête ou dans ton cœur. Où était ton père pendant que tu étais au foot ? Bah, il était au boulot, comme d'habitude. Hein. Pourquoi il était au boulot ? Je sais pas. Non, il était souvent au boulot. Oui, très souvent. Pourquoi ? Alors qu'à maman, on lui a jamais dit le traumatisme du football et qu'on pensait que notre père nous aimait pas, parce qu'il faut surtout pas aborder ce genre de choses. Ben pour l'argent, tout simplement. Moi, à l'époque, je travaillais pas, j'étais à la maison, je t'élevais, donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui remplisse le frigo. Hein. Donc il bossait pour nourrir sa famille. Là, tu commences à avoir les genoux qui tremblent un peu quand tu entends ce genre de choses. Les fondamentaux sont en train d'être un peu secoués par le Saint-Esprit. Ah bon ? Ah oui, pour nous, on a toujours été sa priorité. Bon, c'était un peu excessif peut-être, j'aurais préféré qu'il soit plus souvent à la maison, mais c'était sa manière à lui, tu sais, il était élevé comme ça, origine italienne, fallait bosser, fallait ramener les sous, fallait prendre soin de sa famille, donc c'est comme ça, c'était sa manière de prendre soin de nous et de nous aimer. Nous aimer ? Brrr, les genoux commencent à trembler. Cette petite pensée fait son chemin dans ta tête pendant un certain temps. Et un jour, tu te réveilles un matin et tu as une pensée qui te revient de quand tu étais gosse. Que dans le bureau de ton père, il y avait ta coupe du championnat que tu avais gagné. Et là, tu te dis, non mais si ça n'avait aucune importance pour lui, qu'est-ce que cette coupe faisait dans son bureau ? Et là, c'est l'effondrement, mes amis. Les murs de Jéricho. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne ? Je vous donne un autre exemple, personnel cette fois-ci. On est dans un temps de louange. Et sur le chemin de l'église, j'avais engueulé ma femme comme du poisson pourri. C'était peu de temps après de s'être marié, me semble-t-il. Mais bien engueulé, hein. Pour rien. Je m'assieds pour faire ma confession. Alors voyez-vous, pour rien. Et ça me contrarie malgré tout. D'abord, ça me contrarie qu'elle ait eu l'audace de m'énerver. Et ça me contrarie parce que je sais que c'est injuste. J'arrive ici et tout m'énerve. Vous savez, je vous aime tous, hein, je nous aime tous beaucoup. Mais il y a des matins, des dimanches matins où tout m'énerve. La louange qui va pas, les chaises qui sont pas à leur place, les enveloppes. En plus, j'ai malheureusement un œil sur tout. La poubelle qui est pleine, l'hôtel qui est pas venu passer l'aspirateur, et les bouquins qui sont pas là, et les mâles qui sont au milieu. Enfin, tout m'énerve. Les gamins qui courent, il y a tout qui m'énerve. Et ça me fait monter la colère. Je dis, c'est pas possible, ils se sont ligués contre moi aujourd'hui ou quoi? Donc je suis là dans un temps d'adoration à Dieu, et vous voyez le genre de truc qui peut... Et je sais que c'est le Saint-Esprit. À un moment donné, je déconnecte un peu de la louange et tout, et j'ai une pensée qui me vient. Pourquoi t'es en colère? Parce qu'il y a lui et elle, et l'autre sa robe, et l'autre ses chaussures, et l'autre son truc, il y a tout qui m'énerve. Non. Non, parce que si tu y réfléchis bien, ça fait plusieurs semaines que t'es en colère. Non, en fait, si tu y réfléchis bien, ça fait quelques mois que t'es en colère. Tiens, c'est pas faux. Pourquoi t'es en colère? Qui est responsable de cette colère? Ok, maintenant, je ne suis plus du tout dans la louange à ce moment-là. Je suis là dans ma tête et j'ai le jeu qui est-ce, vous savez? Pour ceux qui connaissent le jeu de société, donc vous faites tout le schéma mental des gens qui vous entourent et vous rabattez les visages au fur et à mesure, jusqu'à ce que, dans le catalogue, tac, non, c'est pas quelqu'un du boulot, non, c'est pas quelqu'un de l'église, non, ma famille, ah, ding, on dirait à Noël, c'est chaud, froid, allez, va chercher le cadeau, il est dans là, tu te brûles un petit peu. Ma famille, ah, qui? Ma femme? Non. Ma grand-mère? Non. Ils ont que les tantes? Non, ils n'ont rien fait. Ma mère? Bing! Bingo! C'est un bingo! Ah, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Et là, j'ai un petit dialogue avec le Saint-Esprit dans mon cerveau et dans mon cœur, parce que les émotions sont un peu chamboulées à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Est-ce que c'était récemment? Non, pas tant que ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous la fais courte. C'était peu de temps après s'être marié, me semble-t-il. Je sais que c'est en rapport avec ma femme. Donc c'est une espèce de jeu de devinette comme ça. Il vous conduira dans toute la vérité, dans notre âme. Je ne vous l'ai pas lu, mais il y a un endroit dans les psaumes où il est dit « Dieu connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. » Parce que nous, il y a des choses qui sont inconscientes, on n'y a plus accès. Mais lui, il connaît et il t'amène tout en douceur, tout en douceur. Et il te tient par la main en disant « N'aie pas peur, je suis là. » Voilà ce qui s'était passé. Quelques mois auparavant, j'avais annoncé à ma mère que j'allais épouser cette belle jeune femme qui est au premier rang. Alors, vous allez dire « Oh, c'est pas la peine de... » Non, mais pour moi, c'était important. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que le Saint-Esprit... Il s'occupe de toi, il ne s'occupe pas de l'humanité, il s'occupe de chaque être dans l'humanité. Quelle a été la réaction de ma mère? Pas celle que je voulais. Je m'attendais à ce qu'elle saute de joie. C'est merveilleux, mon fils va se marier, écoute, je suis tellement content pour toi, etc. Non. Réaction de ma mère. Plat et froid. Une seule meunière, vous voyez? Sa réaction, hein, pas elle. Plat et froid. Et je vois que ça cogite en face. Ça réfléchit, ça analyse, ça pèse. Bon. Eh ben mon fils, c'est ton choix. Non, je sais pas si vous imaginez. C'est ton choix? Ça veut dire quoi, ça? C'est pas forcément le choix que moi j'aurais fait, mais... Tu sais suivre Dieu, tu entends le Seigneur, donc c'est ton choix. Ouais, c'est mon choix. Bien, sujet suivant. Sauf que cette petite expérience-là, ce petit événement, il a commencé à forer dans mon cœur, jusqu'à aller s'enraciner. Et la Bible nous dit, prenez garde qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. Hein. Et puis il a commencé au fil des semaines, au fil des mois, a commencé à produire des branches. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le symptôme visible, c'est l'éclat de colère. Vous savez, je disais dernièrement, quand tu vois dans ta vie ou celle de quelqu'un d'autre une réaction totalement disproportionnée par rapport à un sujet, soit la personne s'est levée du mauvais pied ce matin, elle a fait nuit blanche, elle est fatiguée, il y a eu le voisin qui ont fait de la fête, peu importe. Mais quand c'est récurrent, et surtout quand c'est récurrent vis-à-vis du même sujet, alors il y a une racine qu'il faut aller chercher là. Mais c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? je me suis effondré en larmes. Bon, c'est peut-être une spécificité chez moi, j'en sais rien, mais quand le Saint-Esprit casse les fondations, il y a tout qui s'écroule. J'étais là à genoux, en larmes, content que le Seigneur m'ait montré la vérité, content de pouvoir dire, mais bien entendu que je lui pardonne, parce que je comprends, sans rentrer dans les détails, que c'est un sujet très particulier dans ma famille que celui du mariage, du divorce, des relations, etc. Donc, que voulez-vous que quelqu'un vous donne d'autre que ce qu'il a ? Et je lui ai pardonné et j'ai été guéri. Ma relation avec elle n'a plus été la même. Ma relation avec ma femme, pour le coup, n'a plus été la même. Avec tout le monde, avec mes clients, avec mon associé, avec... Vous voyez comment le Saint-Esprit vous amène ? Et je suis certain qu'il a déjà tapé à la porte de votre cœur à un moment ou à un autre, pour un sujet ou pour un autre. Des fois, ça peut être une petite phrase que le pasteur vous lâche près du café mission, comme ça. Vous savez, elle disait la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, vous savez, un pasteur, il y a une onction sur lui. Des fois, il a des paroles comme ça, mais ce n'est pas toujours derrière un pupitre. Des fois, c'est en descendant vers les toilettes de l'hôtel. Petit truc. Prêtons l'oreille à ce que le Saint-Esprit peut avoir à nous dire. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Dieu connaît les secrets du cœur. C'était le psaume 44 que je vous ai cité tout à l'heure. Bon, il y a d'autres versets, mais on va rester là. Donc, je vous encourage, la vérité ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous éclairer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va venir guérir dans notre cœur tout ce qui a besoin de guérir. Et moi, je crois que ça, c'est une église glorieuse. Moi, je crois que l'église glorieuse, c'est celle qui voit la manifestation de Dieu. Mais la manifestation de Dieu ne pourra avoir lieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, à nos jobs, à travers nous, que si notre âme est renouvelée. Pensée, analyse, émotion, raisonnement. Amen.